À partir de ce vendredi, la 44e édition du Festival d'Opéra Baroque de Beaune. Maximilien Dermarck, vous en êtes le délégué général depuis 2 ans maintenant. Quand on survole le programme du festival, on voit opéra, oratorio, récital, musique sacrée. Tout ça sur 4 week-ends, on est tenté de dire, mais alors quoi de neuf à Beaune?
Alors, ce qu'il y a de neuf déjà, c'est chaque année les œuvres nouvelles, les artistes nouveaux. On a des belles découvertes cette année, à la fois dans les artistes et dans les œuvres qu'on propose. Dans les œuvres, je pense par exemple à un opéra complètement oublié, d'un compositeur pas moins oublié qui s'appelle Lorenzani, un compositeur italien qui a fait une grande carrière à Rome, mais qui avait tenté sa chance en France et qui avait subi un peu les foudres de Lully, mais qui avait réussi quand même à présenter un opéra devant le roi, et c'est celui-ci qu'on va donner. En plus, il y a un opéra assez brillant et assez court et assez drôle d'ailleurs, avec l'ensemble de la Palatine qui a un ensemble de tout jeunes musiciens qui est en résidence au Festival de Beaune. Ça, c'est aussi notre mission, de les accompagner, de les détecter et de leur permettre de penser plus grand. Et puis dans les découvertes aussi, on en parlera peut-être, l'Avare de Gasparini, donc l'Avare de Molière, mais mis en musique, complètement chanté par Gasparini, un compositeur vénitien.
Je dois dire que je suis un peu interpellé aussi par le thème annoncé pour cette année, l'au-delà. Alors, est-ce que c'est l'au-delà du dépassement ou est-ce que c'est l'au-delà inconnu? Si je poussais un peu l'idée trop loin, je dirais le royaume des morts dont on parlait autrefois.
Alors, ça va vous paraître une coquetterie, mais le thème, c'est au-delà. Ce n'est pas l'au-delà.
Donc, c'est le dépassement.
Voilà, pour que l'imaginaire ne s'arrête pas, en effet, à la question de la vie après la mort, même si la question intéresse la musique. Et la musique baroque et la musique sacrée en particulier, évidemment. Et donc, on a forcément, avec ce fil rouge, des œuvres qui parlent de l'espérance, de la question du passage, le Stabat Mater, évidemment, par exemple, qui parle de la souffrance, mais de l'espérance d'une mère devant la mort de son fils. On a le concert d'ouverture, qui est un requiem imaginaire pour l'empereur Charles Quint, qui est loin d'être un programme et un concert triste, mais au contraire extrêmement vivant, avec beaucoup de musique joyeuse, en fait. On parle de l'au-delà, mais c'est aussi, en effet, au-delà, c'est de réfléchir aux questions de métamorphose, de transformation. Et puis aussi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de regarder, il y a pas mal d'œuvres au programme qui sont les dernières œuvres de leurs compositeurs. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Parfois, comme Pergolèse, par exemple, qui meurt à 26 ans, mais c'est quand même étonnant qu'il ait composé le Stabat Mater à la toute fin de sa vie. Et par exemple, pour Bach, dans la messe en si.
On n'est vraiment pas dans une nouveauté avec la messe en si.
Alors, ça fait 30 ans qu'on n'a pas donné la messe en si à Beaune, donc si. D'ailleurs, c'est un des concerts qui s'est rempli le plus vite parce que les gens sont heureux de retrouver la messe en si à Beaune, et puis avec un ensemble qui n'était jamais venu non plus, qui est un peu partout en Europe, mais qui ne s'est jamais venu à Beaune, Vox Luminis. Et la messe en si, c'est vraiment un testament. Et un peu pareil aussi pour les Boréades de Rameau, alors pour le coup qu'on n'a jamais présenté à Beaune, qui est le dernier opéra de Rameau, à plus de 80 ans, et qui n'a jamais vu de son vivant d'ailleurs, mais les répétitions avaient été arrêtées. Et en fait, un opéra qu'on n'entend presque jamais, et qu'on n'avait jamais entendu à Beaune, et qui est vraiment pareil, qui, alors pour le coup, n'est pas un testament, enfin je dirais pas un testament, mais je dirais que c'est une œuvre d'avant-garde. C'est un homme de 80 ans qui explore des chemins absolument nouveaux et qui ouvre la voie à tout ce qui va se passer ensuite, à Haydn, à Mozart, à Beethoven, voilà, le génie Rameau.
Maximilian Dermark, des nouveautés tout de même cette année. Alors vous l'avez dit, vous avez parlé du théâtre, mais vous allez aussi, et vous l'avez déjà un peu souligné, marquer une ouverture en direction des familles. Et puis alors, à Baude, ça n'a rien de surprenant, mais chez vous c'est inhabituel. Voici le vin avec des dégustations, comme on peut déjà le faire en Côte d'Or avec d'autres festivals, je pense à Meursault ou à Gevrey.
Alors le vin n'était déjà pas absent, on organise depuis longtemps des dîners à l'Hôtel Dieu, aux Hospices, avant les opéras qu'on donne dans la cour, où évidemment déjà le vin est important, et puis c'est les vins que nous donnent généreusement les Hospices de Beaune. On a voulu inventer un autre format, un peu plus informel, un peu plus dégustation comme ça, un peu plus court, mais toujours dans l'idée de proposer aux gens une sorte de festivalier, une soirée un peu complète. Et donc on organise ces dégustations de vin avec des belles cuvées et avec une conférencière qui s'appelle Charlotte Fromont, qui est assez connue à Beaune et qui est vraiment spécialiste de l'histoire du vignoble. Donc ce sera aussi une manière de parcourir l'histoire et le vignoble.
Mais est-ce que c'est une manière de manifester justement l'ouverture dont vous nous parliez il y a quelques instants ?
En tout cas, c'est une manière de proposer de multiples portes d'entrée dans le festival. Tout est bon pour nous, pour convaincre ou reconvaincre des Beaunois, des Bourguignons, des gens d'un peu partout, de revenir au festival ou de venir pour la première fois. Et avec une comédienne baroque donc, qui va raconter, narrer Podane avec les codes du jeu de l'acteur du XVIIe siècle. Et puis une gambiste qui va improviser autour de ce conte. C'est vraiment, c'est très astucieux, c'est très beau. Et ça marche très bien avec les enfants, et donc accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et on fait ça aussi dans un nouveau lieu pour nous, qui est la Lanterne Magique, cette jolie salle de la ville de Beaune.
Ça fait partie de ces lieux que le festival ne visitait pas auparavant.
On tourne dans davantage de lieux, dans des petites chapelles aussi, qui nous permettent d'avoir des répertoires plus intimes. On célèbre les 400 ans de la mort d'un compositeur anglais très important qui s'appelle John Dowland, un luthiste, un joueur de luth et un très grand compositeur de chansons, de ballades, à la cour d'Elisabeth Ier, reine d'Angleterre. Et donc justement, ces petits lieux dans lesquels on va, des chapelles, parfois des maisons de vin aussi, permettent de montrer justement typiquement ce répertoire-là. C'est juste un luth, un chanteur ou une chanteuse, et de passer des moments différents évidemment que dans la cour des Hospices ou à la basilique, où on est submergé de sons parfois. Et là, c'est au contraire, il faut tendre l'oreille, et ces lieux-là nous y invitent, que ce soit la chapelle de la Charité, la charrette des Jacobins, voilà, et la Lanterne Magique aussi.
Vous parliez de la multiplicité des portes d'entrée dans le festival. On pourrait évoquer les conversations, les visites musicales. Ça, c'est le festival qui s'implante vraiment au cœur de la ville. Je ne reviens pas sur les dîners. Le cœur du festival aussi, ce n'est pas la première année, mais tout de même.
Ah oui, alors ça, c'est vraiment... C'était un pari. Enfin, je pensais bien que ça allait marcher, mais je n'étais pas sûr. Et l'année dernière, en fait, on a en effet créé ce cœur amateur du festival sous la forme d'un stage, en fait, d'une semaine pour une quarantaine de musiciens. Et ça avait très bien marché l'année dernière. Et puis cette année, on a été presque un peu submergé. Donc, il a fallu faire une liste d'attente. Et je crois que ce qui a vraiment plu, alors au-delà du fait qu'il y a beaucoup de choristes dans la région, Il y a vraiment une tradition de chant choral. Évidemment, il y a un concert de fin de stage avec un enjeu peut-être un peu moindre. Mais ce que j'ai voulu, c'est que justement les stagiaires participent vraiment, se mettent dans la peau d'un artiste du festival. Donc l'année dernière, c'était ils avaient chanté quelques chœurs du Messie. C'était un sacré challenge. Et là, ils vont aussi chanter quelques chœurs des Vêpres de la Vierge de Monteverdi le 24 juillet. On passe d'une posture de festivalier à un rôle vraiment actif, un rôle d'artiste du festival. Et ça, je suis vraiment, enfin, on est tous très contents et les stagiaires sont vraiment enchantés, j'ai l'impression.
Maximilien Demarque, le premier week-end, je dirais même le premier jour, est finalement à l'image de ce festival. C'est-à-dire qu'il y a tout. Ce vendredi, quatre manifestations. Il y a la visite, il y a la dégustation, évidemment le grand concert du soir.
Bah, c'est vrai. Alors, pour ce grand concert, j'en ai dit deux mots. Ce Requiem imaginaire pour Charles Quint, c'est un ensemble qui n'est jamais venu à Beaune et qui est vraiment important aujourd'hui, qui s'appelle La Tempête et son chef Simon-Pierre Bestion, et qui a vraiment, enfin lui et puis son ensemble, le goût des spectacles un peu grandioses, un peu.
On met en scène, on donne à
Voilà.
entendre et on donne à voir.
Exactement. On donne à voir, on donne à ressentir, à voyager. Et ça, j'y suis attaché, et notamment alors, je suis attaché en général, mais notamment pour l'ouverture, parce que je trouve que ben, voilà, c'est important de commencer avec quelque chose qui sort de l'ordinaire, avec quelque chose d'assez en haut en couleur. Je ne dévoile pas trop, mais voilà, les murs de la basilique vont un peu trembler. C'est assez sonore et vivant, et donc on en est content. Et puis en effet, avant, vous avez dit, ben, on peut aller déguster quelques vins, et puis un peu plus tôt dans l'après-midi, visiter la ville avec une guide conférencière et puis une chanteuse lyrique qui vous emmène dans des coins pas très connus de Beaune. Donc même si on connaît bien Beaune, on peut découvrir, pousser des portes qu'on ne pousse pas d'habitude.
Quand on inscrit dans le programme la messe en si de Bach, vous avez souligné la présence de Vox Luminis. C'est pour faire plaisir au public ou est-ce le sentiment qu'une œuvre qui passe pour être connue, c'est un monument, a des choses à nous dire que nous n'y soupçonnons pas?
Comme je vous le disais, la messe en si, ça fait près de 30 ans qu'on n'a pas. Voilà, la dernière fois, c'était oui, une trentaine d'années avec Philippe Hervaigue à Beaune. Donc, à l'échelle du festival qui a 45 ans, voilà, il était temps de la redonner. Beaune est un festival généraliste. On montre vraiment toute l'étendue du baroque. Et donc, on a aussi un rôle quand même parce que les publics se renouvellent, change, et donc de présenter peut-être pour la première fois à des gens la messe en si. C'est comme un théâtre qui a besoin de temps en temps de revenir à Molière, de revenir à Shakespeare et pour aller voir d'autres choses. Et évidemment, avec Vox Luminis, qui a une relation très modeste à Bach en général et à la messe en si, non pas en effectif, hein, c'est un effectif assez classique, mais plutôt enfin classique, c'est pas une messe en si comme dans les années 50 à 200 musiciens, mais c'est surtout une approche, voilà. Alors, Lionel Meunier, qui est le chef de Vox Luminis, mais ne dirige pas comme un chef dirige habituellement, puisqu'il dirige depuis son pupitre, enfin depuis la voix. Il est basse. Et donc, il y a une certaine humilité par rapport aux grands chefs-d'œuvre de Bach, qui nous la font revoir d'une manière plus humaine, plus intime, et avec des chanteurs vraiment magnifiques qui font à la fois les chœurs et les solos. Donc, il n'y a pas l'idée d'un grand défilé de stars. C'est plutôt une approche collective et humaine de l'armée Saint-Cyr.